Allô, allô, ici Antoine Guillot, bienvenue dans ce nouveau numéro de Comment ça va le monde. On se pose cette saison la question des problématiques de l'énergie et de sa gestion. Je suis pour cela accompagné de Valentin Vinci. Bonjour Valentin.
Bonjour Antoine.
On a commencé à voir pendant l'épisode précédent un petit peu la façon dont on produisait l'électricité. On s'est penché sur l'électricité, puis la façon dont il était redistribué à travers son réseau, le réseau interconnecté au niveau européen. Et on a commencé à évoquer un peu les problèmes de stockage de l'électricité, puisque si on fait court, à échelle industrielle, on ne sait pas stocker. Alors on va profiter de cet épisode, de ce numéro de la série, pour se pencher précisément sur ces questions de stockage. Déjà, on peut évoquer les différentes manières de stockage qu'on connaît. Comme ça, on va détailler un petit peu tout ça. Mais qu'est-ce qu'on connaît aujourd'hui dans ces stockages qui ne marchent pas à échelle industrielle?
Tu te rappelles des différentes manifestations de l'énergie dont on avait parlé il y a quelques mois maintenant?
Oui.
On avait parlé de différentes manières dont se manifestait l'énergie. Et ben en fait, du coup, il y a différentes manières de stockage qui vont avec. Donc on avait parlé de l'énergie mécanique. On peut stocker de l'énergie de façon mécanique, et donc de l'électricité de façon mécanique. On peut la stocker de façon chimique, et donc ça c'est un peu ce que j'ai fait dans ma thèse. On peut éventuellement la stocker de façon thermique, mais ce qu'on ne sait pas faire, comme tu l'as bien dit, c'est le stocker de façon industrielle. Alors, le stockage mécanique, c'est peut-être le plus simple. On pourrait peut-être commencer par ça. Mm-hmm. Il y a plusieurs façons d'imaginer stocker mécaniquement. Soit on peut faire évoluer un objet dans un champ de pesanteur, et donc on va, si on a un surplus d'énergie ou de l'énergie à stocker, par exemple, on va monter un objet en hauteur. Ou alors on peut essayer de lui donner de la vitesse, parce que tu te rappelles, l'énergie permet de faire passer un objet immobile à un objet en mouvement.
Oui.
Et donc ça c'est une manière
de définition de l'énergie.
Voilà. Et ça c'est une manière de stocker de l'énergie. On a de l'énergie en surplus à un moment donné, on met un objet en mouvement, et si on veut récupérer cette énergie, on va freiner cet objet et récupérer l'énergie de freinage.
D'accord. Voilà, oui, alors là pour le moment c'est très abstrait ce que tu racontes là. Est-ce que on peut donner un exemple concret, et puis peut-être ça a un nom d'ailleurs, ce type de stockage d'énergie?
Il y a un objet qui sert à stocker de l'énergie cinétique, donc de l'énergie de mouvement, qui s'appelle le volant d'inertie.
Là on n'est pas on parlera plus tard des batteries, mais c'est pas le type de pour se représenter la chose pour un néophyte comme moi, c'est assez nouveau ce que tu dis là. Mais en fait, l'électricité qu'on a en surplus, on l'utilise. Et en fait, c'est le fait de mettre en mouvement, ça veut dire que l'énergie est transférée dans ce mouvement. Enfin, ce mouvement, c'est l'énergie. Mmh. Et quand on récupère ce mouvement, parce que par exemple, on stoppe ce mouvement et du coup, de l'énergie qu'on est déployée, eh ben on peut refaire de l'électricité avec ça.
Voilà.
C'est très étonnant, quoi. En fait, ça paraît, dit comme ça, ça paraît pas si compliqué que ça.
Ça paraît pas si compliqué. Alors, la difficulté, c'est dans le temps de stockage. Dans un monde sans frottement, dans un monde simple, qui n'a pas de frottement, quand on imprime à un objet un mouvement, il ne va pas freiner par lui-même. Donc, il va garder...
Comme dans l'espace.
Il va garder cette énergie cinétique, comme dans l'espace. Ouais. Et donc, il va garder cette énergie cinétique dans un temps infini. Bon. Comme on n'est pas dans un système simple, il y a des frottements, les frottements par exemple de l'air, les frottements des pièces les unes contre les autres. Et donc, en fait, avec des objets de ce type-là, on ne peut conserver de l'énergie, enfin une quantité raisonnable d'énergie, que dans un temps qui est court, qui est de l'ordre de l'heure ou de la dizaine d'heures.
Mmh. Ah oui, donc c'est même très court en fait.
C'est plutôt court. Donc du coup, ça nécessite d'avoir des moyens de production qui sont en rapport. Bon, on a quand même, c'est pas une solution miracle, parce que les solutions miracles, on commence à le sentir, ça n'existe pas. On ne va pas être sauvé par un miracle.
La communauté scientifique en est consciente et.
Et elle le dit, oui.
C'est important de se dire ça.
Donc voilà. Donc du coup, on a vu qu'on pouvait stocker de l'énergie, notamment de l'électricité, dans un objet qui est en mouvement. On a parlé tout à l'heure, quand on a un objet qui est pesant, qui est lourd, on peut le monter d'une certaine hauteur.
Oui.
Et on va utiliser de l'énergie pour le monter d'une certaine hauteur, donc sur une certaine altitude. Et en le faisant tomber, on pourra récupérer cette énergie.
Donc c'est ce dont tu parlais lors de l'émission précédente, ça s'apparente au barrage hydraulique.
Voilà. Ça marche pas mal.
Et ça voilà, a priori, ça marche bien, mais ça pose quelques problèmes.
Alors, ça pose quelques problèmes, oui. En fait, c'est relativement diffus comme façon de stocker de l'énergie. C'est-à-dire que par unité de volume, on ne va pas en stocker beaucoup. Ou, dit autrement, pour stocker une quantité raisonnable d'énergie, on va impliquer beaucoup d'eau.
Oui. Et donc, qui prennent beaucoup de place et
Donc ça prend beaucoup de place, ça. En fait, on peut faire le calcul.
Ben, on peut faire le calcul, par exemple, oui, ben, sur la consommation annuelle de ma maison,
Oui.
on pourrait faire ça.
On pourrait faire ça. C'est pas
Ok.
très très compliqué. Alors ce sera des chiffres approchés, hein. Ce sera des ordres de
Ouais, mais
grandeur.
ça, voilà, ça donne déjà un ordre de grandeur. Donc, si on prend, par exemple, voilà, dans ma maison, c'est pas très bien, mais le chauffage et l'eau chaude, c'est du fioul.
Oui.
C'est une maison qui est assez grande. On doit consommer de l'ordre de. Ça doit être tout juste moins de 2000 litres par an.
Donc, si tu voulais imaginer un système de stockage qui serait au-dessus de ta maison pour stocker tout ça avec de l'eau,
Donc on imagine une cascade qui est sur la façade de ma maison,
ouais,
donc une cascade qui fait 10 mètres de haut par exemple,
voilà.
et le fait que l'eau tombe du toit pour arriver en bas, donc ça peut produire de l'énergie, de
Voilà, si tu mets une
l'électricité,
turbine, tu mets un réservoir amont et un réservoir
et puis
aval
après il faut la remonter, bon
et une
voilà,
turbine entre les deux.
et donc quelle quantité d'eau il faudrait pour ça?
730 fois 10 puissance 6 kg. Donc ça
Donc
fait 730
730
millions
millions
de
de
kilogrammes.
kilos d'eau,
Voilà.
donc de litres d'eau, puisque un kilo égale un litre.
Voilà.
Et ouais, bon, alors 730 millions de litres d'eau, ça correspond à quoi? Parce que là, je me rends pas du tout compte.
Et bah du coup, ça fait 730 000 tonnes d'eau.
Oui.
Et du coup, ça ferait quelque chose comme 250 piscines olympiques.
Alors, sur l'année, parce qu'en fait,
Sur
si on
l'année.
divise par 365 jours, ça veut dire que tous les jours, en gros, je dois faire descendre une piscine et demie olympique par jour. De 10 mètres pour produire mon eau, enfin pour
Pour
produire ma
chauffer ton
chaleur,
eau
quoi.
et chauffer
Ce
ta
qui est colossal. Donc en fait, cette question de, enfin cette solution de step et de barrage hydraulique, elle n'est pas du tout adaptable au niveau domestique.
Exactement.
Et donc c'est des quantités d'eau qui sont pharaoniques quand on le fait ben, à échelle industrielle pour que EDF fait des barrages comme ça. Mais du coup. Ça veut dire qu'on parle de vallées qui sont complètement inondées, complètement condamnées.
On parle de vallée, oui.
Et il me semble qu'on a l'anecdote de Tignes après la Seconde Guerre mondiale, qui est un village du coup de Savoie qui est complètement évacué pour être reconstruit ailleurs parce que la vallée va être inondée, quoi.
Ouais.
Alors à l'époque, Tignes c'était 30 habitants, donc voilà.
Bah, exactement, voilà. On inonde des vallées pour faire ce type de réservoir de stockage. Alors, pour l'exemple de Tignes, je ne sais pas si c'est un exemple dans lequel il y a de la steppe ou pas, mais c'est ça. On parle bien de vallées entières, on parle de morceaux de géographie qui sont
Mais
inondés.
donc ça pose d'autres problèmes. Et puis là, on en revient à tout à l'heure. On pourrait se dire le barrage. On en revient à l'émission, à la dernière émission. On pourrait se dire le barrage hydraulique, c'est une super solution et c'est vraiment de l'énergie verte parce que l'eau est constante et une énergie renouvelable. Mais en fait, on inonde des vallées pour ça. Donc on inonde complètement la biodiversité de cette vallée. Ben,
On
ça.
va changer ça, on en discutera quand on va parler plus précisément des énergies renouvelables. Mais oui, en fait, il y a des nuisances, chacune des énergies et chacun des moyens de stockage d'énergie. Et ça, c'est important de le comprendre et de l'avoir en tête. Charrie avec lui un certain nombre de nuisances, d'inconvénients, de pollutions, de problèmes. Et il n'y a pas de solution miracle. Et c'est comme, voilà, c'est ce qu'on a commencé à intuiter. Et donc, si on continue sur le stockage, on connaît d'autres façons de stocker de l'énergie. On connaît l'air comprimé, donc on va prendre un certain volume d'air qu'on va comprimer, et quand on a de l'énergie en surplus et qu'on va détendre quand on a un déficit d'énergie.
Alors, avant d'embrayer sur les différents stockages chimiques, cette fois, puisqu'on vient de parcourir les stockages mécaniques, on fait une petite pause musicale avec le grand Bachung, Vénus, et on se retrouve après.
L'un dard venimeux, là un socle trompeur, plus loin. Une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre plein de décoction d'acide qui vous rongerait les os et puis l'inévitable clairière amie, vaste accueillante, les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée plus haut que les nues. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Des cerises qui rosissaient ou grossissaient lorsque deux doigts s'en emparaient. Et leurs feuilles enveloppantes, la pluie et la rosée, la pluie et la rosée. Toutes ces choses avec lesquelles il était bon d'aller, guidé par une étoile, peut-être celle-là, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit, première à éclairer la nuit. Vénus, Vénus, Vénus. L'un d'art venimeux, l'un socle trompeur. Plus loin, une souche à demi trempée dans un liquide saumâtre et d'acide, probablement qui vous rongerait les os. Et puis les fruits à portée de main et les délices d'hiver dissimulés dans les entrailles d'une canopée. Elle est née des caprices, elle est née des caprices. Pomme d'or, pêche de diamant, pomme d'or, pêche de diamant. Et ces cerises qui grossissaient lorsque la pluie et la rosée, toutes ces choses guidées par une étoile, guidées par une étoile. Première à éclairer la nuit.
Alain Bachung pour nous accompagner dans cette série d'émissions Comment ça va le monde, où on se pose la question de l'énergie. On est sur ce numéro sur la question du stockage de l'électricité et tous les problèmes que ça pose, pourquoi ça ne marche pas à échelle industrielle et pourquoi parfois ça ne marche pas à échelle individuelle non plus, on l'a vu sur les barrages hydrauliques. Donc il y a aussi différentes manières de stockage qu'on connaît qui sont dites chimiques. Alors quelles sont-elles et quels sont leurs problèmes ?
On va même pouvoir parler de stockage électrochimique, puisqu'on va chercher à stocker de l'électricité. Le plus connu, le plus accessible au sens, je pense, c'est la batterie. La batterie, batterie, c'est un terme qui est impropre, on va parler d'accumulateur électrochimique.
Donc, dans mon téléphone portable, j'ai un accumulateur électrochimique. Dans ma voiture, pareil.
Oui, c'est pas la même chimie qu'à l'intérieur, mais oui. Et donc, il me semble qu'on l'a dit le mois dernier, on va chercher à provoquer une réaction chimique dont on espère qu'elle va être réversible un certain nombre de fois, réversible avec un rendement qui est acceptable. Et donc typiquement, quand on recharge une batterie, on va provoquer une réaction chimique, et quand on la décharge, c'est la réaction chimique inverse qui va se faire spontanément et qui va délivrer de l'énergie.
Sans forcément rentrer dans les détails, pourquoi est-ce que le système de batterie qu'on connaît bien et qui nous est très quotidien, très familier, pourquoi est-ce que ça peut pas marcher à l'échelle industrielle ?
Alors, c'est pas que ça peut pas, c'est que ça a pas forcément d'intérêt économique parce que ça coûterait très cher. Ça peut poser un certain nombre de problèmes de ressources parce qu'il faudrait, si on prenait par exemple la batterie qui est dans ton téléphone, qui contient du lithium, qui contient du cobalt, très probablement. Ce sont des ressources qui sont en quantité finie et qui sont pas en quantité suffisante pour envisager des stockages à l'échelle mondiale d'électricité.
Mais à part sans ça, en fait, on pourrait le faire, théoriquement.
Bah, sans ça, c'est quand même pas mal comme limitation.
C'est... Oui, mais on pourra toujours. C'est difficile de trouver du cobalt, ok, ça coûte très cher, et puis sans doute que ça pollue énormément. Mais bon, c'est pas la seule chose que l'être humain fait en polluant. Du coup, on pourrait très bien se dire, on fait des batteries géantes pour régler ce problème de gestion de l'électricité et trouver une solution de stockage. Bah, Parce qu'en plus, une fois qu'elles sont faites, après, il y a une durée de vie qui est quand même certaine, quoi.
Oui, mais qui est faible. Par exemple, la durée de vie de ta batterie de téléphone, elle est pas très importante, en fait.
Et ça, on sait pas l'améliorer. Aujourd'hui, sur un iPhone, une des meilleures batteries qu'on connaît dans le monde, quoi.
Disons que la durée de vie d'une batterie, c'est beaucoup moins que celle d'un barrage, par exemple. Mmh. Un barrage, c'est de l'ordre de la centaine d'années. La batterie, on est plutôt sur de l'année ou 5 ou 6 ans, quoi, maximum. La ressource, c'est important, enfin, c'est une limitation importante, et puis ensuite ça pose des problèmes de type sécurité industrielle, puisque si on a des batteries, je sais pas si t'as vu, il y a des vidéos qui circulent de gens qui s'amusent à percer leurs batteries de téléphone. Bon bah ça prend assez rapidement feu, ça fait des fumées qui sont noires.
Donc qui sont potentiellement mauvaises.
Qui sont assurément mauvaises. Et en fait, si on devait stocker massivement de l'énergie dans des batteries, et ben on aurait un risque industriel associé qui serait probablement massif.
Risque industriel qu'on prend avec le nucléaire, par exemple.
Et oui, bah on peut le voir comme ça, tout à fait. Mais le problème de la ressource et de la rentabilité économique continue à se poser.
Alors, outre la batterie, dans les différents stockages chimiques, qu'est-ce qu'on a également ?
Dans le cas d'une batterie, c'est un stockage électrochimique dans lequel l'appareil de stockage et l'appareil de déstockage, c'est le même appareil, c'est la batterie. Dans un système de pile à combustible, en fait, on va stocker en stocke de l'énergie en hydrolysant, en fabriquant du dihydrogène, notamment à partir d'eau, en électrolysant de l'eau classique. Donc, on a l'appareil de stockage qui est en gros l'électrolyseur plus la bonbonne de stockage, et l'appareil de déstockage qui est la pile à combustible. La pile à combustible, c'est un exemple qui est très intéressant parce qu'on en entend beaucoup parler en ce moment.
Pourquoi on en entend parler ?
Parce qu'il y a des modes.
Ah oui, donc ce serait éventuellement une solution.
C'est une solution intéressante.
Et pourtant, il me semble que la pile à combustible, on la connaît depuis très longtemps.
On la connaît depuis très longtemps, tout à fait. La batterie aussi d'ailleurs. On la connaît depuis très longtemps.
Batterie, c'est on est à quelle époque ?
Ça fait plus de 150 ans, oui.
D'accord.
Oui, donc pour la pile à combustible, il se trouve que les missions Apollo, Apollo 11, intégraient des piles à combustible qui sont extrêmement semblables à celles qu'on fait encore aujourd'hui. Et ça, c'était plus de 60 ans.
C'était des années 60. Ouais. Bah, d'ailleurs, on a l'extrait de Monsieur Bacon qui dans une interview fin des années 50, début des années 60. Alors c'est en anglais, mais on traduira en substance ensuite, qui parle justement de cette découverte de piles à combustible.
Well, I like to think so, but you must remember that I am an enthusiast, and perhaps you better get that confirmed by somebody else.
Alors, il manque la question qu'on pose à Monsieur Bacon. En fait, l'intervieweur demande à Monsieur Bacon si la pile à combustible, c'est une révolution qui est de l'ordre de celle de la machine à vapeur. Et Monsieur Bacon répond que lui, il pense que oui, il en est presque certain, mais que néanmoins, il est considéré comme quelqu'un de très enthousiaste. Donc du coup, il modère son propos juste derrière. Mm-hmm. Ce qui est intéressant, donc ça c'était dans les années 60, et la pile à combustible c'est un objet qu'on maîtrise toujours pas parfaitement aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'en a pas et qu'on ne stocke pas massivement d'électricité avec de la pile à combustible.
Oui, ça aurait pu être une solution, mais en fait c'est très compliqué.
C'est un objet qui est... Le concept est relativement simple, il est très proche de celui de la batterie, c'est-à-dire qu'on va réduire de l'eau en dihydrogène ça c'est le stockage, et on va oxyder de façon contrôlée du dihydrogène avec de l'oxygène pour faire de l'eau, ça c'est le déstockage, et on tire de l'énergie.
Et la pile à combustible fonctionne avec le dihydrogène, si je me souviens de mes lointains cours de sciences, le dihydrogène c'est très explosif.
Alors c'est très explosif, mais bon, ça c'est un... Alors effectivement, ça veut dire que le stockage présente là encore des risques industriels, c'est un risque industriel qu'on sait à peu près gérer, mais il a d'autres inconvénients. C'est surtout qu'il est c'est une toute petite molécule qui passe à travers beaucoup de matériaux.
Parce que c'est la plus petite.
C'est la plus petite molécule qu'on puisse imaginer, en fait. Et ça passe à travers beaucoup de types de matériaux. Ça passe à travers les joints. Et
puisque les joints sont faits de molécules qui sont plus grosses qu'elles, donc évidemment.
Voilà, exactement.
Ça passe à travers les mailles de. Voilà.
Tout à fait. Ouais. Et surtout, comme c'est un gaz, la quantité d'énergie à conditions de pression ambiante, la quantité d'énergie qui est stockée par unité de volume est faible. Okay. Donc, c'est encore pire qu'avec de l'eau. Mais il faut un volume qui est très...
Beaucoup
très...
plus que 250 piscines olympiques pour...
Voilà. C'est un volume qui est très important. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on comprime. Soit on comprime, soit on fait des réactions en cascade pour l'avoir sous forme solide. Mais en tout cas, le système complet stockage... Donc, création du dihydrogène, stockage du dihydrogène, déstockage de l'hydrogène, un rendement qui est généralement très mauvais, enfin, qui est mauvais et qui nécessite un appareillage qui est complexe, et donc c'est pour ça que c'est pas appliqué industriellement.
Une autre manière de stocker l'énergie, en l'occurrence l'électricité, c'est le stockage thermique.
Alors, je ne sais pas si tu as déjà... Oui, tout à fait. Le stockage thermique... C'est intéressant parce que c'est probablement celui que beaucoup de nos auditeurs ont chez eux, en fait. Je sais, donc toi non, mais moi j'ai un chauffe-eau électrique qui s'active le soir, qui s'active la nuit. Alors pourquoi il s'active la nuit ? C'est parce qu'en fait, l'énergie est moins chère la nuit.
Mais c'est les heures creuses,
c'est ce qu'on appelle les heures creuses. Ça s'explique par le fait qu'il y a moins de consommation la nuit.
Et les centrales nucléaires sont pour autant allumées, voilà. Du coup elles produisent, donc il faut inciter à consommer.
Exactement.
Et puisqu'on doit produire ce qu'on consomme au même niveau à un instant T.
Exactement. Et donc pour stocker ce surplus d'énergie, ce qu'on pourrait appeler un surplus d'énergie, cette énergie en trop, cette énergie peu chère, etc., il y a un certain nombre en France de chauffe-eau qui se compte probablement en millions. Un certain nombre de chauffe-eau électriques qui s'allument la nuit, qui vont chauffer une certaine masse d'eau. Et tu te rappelles que quand on chauffe un gramme d'eau de 14,5 à 15,5 degrés,
c'est des calories.
C'est de l'énergie. Okay. Et si notre chauffe-eau est bien isolé, pour un certain nombre d'heures, on va pouvoir stocker de l'énergie électrique sous forme thermique dans ces appareils-là et donc lisser la courbe. Par contre, dans ce cas-là, on n'a pas de déstockage.
C'est-à-dire
qu'on ne renvoie jamais l'électricité sur le réseau, on se sert de l'eau chaude.
On se sert de l'eau chaude. Donc en fait, on peut dire qu'on a tous chez nous, en tout cas toutes les personnes qui ont un chauffe-eau électrique chez eux, ils ont un réservoir à calories.
C'est exactement ça.
On peut dire, d'accord. C'est rigolo de s'imaginer ça. En fait, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de solution à échelle industrielle? Ou alors, même sans parler d'échelle industrielle, on peut très bien se dire, on n'a pas besoin de cette solution à échelle industrielle. Si chacun, on a chez nous une solution de stockage qui fonctionne et qui nous rend autonome, ça peut être une solution aussi. Et ou chez nous, et puis chaque entreprise a ça, enfin voilà, chaque bâtiment public, etc. a ça, ça pourrait être une solution. On n'a pas besoin de barrages et d'inonder des vallées complètes si on est autonome chacun. Et pourquoi est-ce qu'on n'a pas ça, en fait?
On a vu que soit on avait besoin d'un appareillage qui était complexe, par exemple dans le cas de la pile à combustible, qui se gère avec des ingénieurs, qui se gère pas de façon simple, parce qu'il y a des fluides qui sont compliqués à gérer, qui sont par exemple du dihydrogène, soit on a des objets qui sont relativement simples à utiliser, mais qui sont peu efficients ou qui ont une durée de vie faible, comme les batteries, qui sont très chers. Donc ça, ce serait pour les choses qui pourraient être utilisées de façon domestique. Soit elles ne le peuvent pas parce que les volumes impliqués sont trop importants. Mmh. Comme par exemple dans le cas
de... Mais donc la solution, parce qu'en plus, ce que tu disais tout à l'heure, la science, en tout cas dans les prochaines années, les 10, 20, 30 prochaines années, a priori, pourra apporter des améliorations, mais pas des révolutions majeures. En tout cas, ça commencerait à pointer le bout de son nez, donc on aurait des débuts de pistes de ça. Mais ça veut dire que la solution, puisque ce problème de stockage est quand même essentiel dans la gestion de l'énergie de notre quotidien, il ne sera jamais réglé.
Alors, en tout cas, pas à l'échelle. On ne peut pas dire qu'il sera jamais réglé.
Nous, de notre vivant, on le connaîtra a priori pas.
A priori, il y a peu de pistes aujourd'hui qui sont valables pour l'ordre de grandeur du problème dont on parle. Et c'est pour ça que c'est si compliqué de se passer d'énergie fossile ou nucléaire pour lesquelles la fonction de stock est intégrée dans le matériau de départ.
Oui.
Donc, c'est ce qu'on a dit la dernière fois. Le charbon, ça se stocke très bien. Okay. La fonction de stock est intégrée dans l'énergie primaire, c'est aussi le cas pour le nucléaire. C'est pas le cas pour l'électricité, donc qui est une énergie finale. Et a priori, dans les volumes d'énergie dont on parle, on n'a pas de solution.
Et ça, c'est essentiel, en fait, ce qu'on dit là, parce que le jour où on trouve une solution de stockage, en fait, on change le visage de ce qu'est l'humanité aujourd'hui, quoi, et oui. De nos sociétés.
Oui, mais en fait, c'est très difficile d'imaginer d'autres types de stockage que ceux dont je t'ai déjà parlé. Enfin, on peut imaginer des variations, mais globalement, on n'a pas beaucoup d'autres pistes.
En fait. On a expérimenté à peu près tout et on connaît les limites d'à peu près tout.
Voilà, on a une idée des limites, alors on ne les connaît pas, on n'est pas au taquet sur chacune des technologies dont on a parlé, ça c'est sûr et certain. Néanmoins, on a une idée des limites d'à peu près tout ce dont on parle. Et ces limites ne sont pas compatibles avec les ordres de grandeur dont on parle. Il faut bien le répéter.
Il faut bien le répéter. Et donc l'énergie fossile, qui utilise comme matière première un hydrocarbure fossile, par exemple, contient ce réservoir, donc, du coup, est la solution. Et c'est pour ça que c'est la solution à l'échelle industrielle aujourd'hui, et qu'on n'a pas d'alternative. Mais du coup, la solution, ce serait quoi ?
Tu me demandes une solution miracle, et on a déjà répondu à cette question. Il n'y en a pas. Voilà. Je ne vois pas de solution miracle pour les ordres de grandeur dont on parle. Et à mon avis, ça n'existe pas. Alors, mon avis est peut-être que je suis mal informé, peut-être que je suis insuffisamment informé.
Bon, en sachant que tu es peut-être mal informé, ça, c'est ta modestie qui t'oblige à dire ça, non, et puis ton esprit scientifique qui t'oblige à dire ça, mais ça fait une dizaine d'années que tu plonges sur le sujet, donc tu le connais assez bien, même si...
Donc, voilà. les solutions qui... Il n'y a pas de solution évidente, voilà. On peut le dire comme ça.
C'est vertigineux, en fait. C'est vertigineux ce que tu me réponds là, et en fait... Voilà, et surtout quand on connaît ce qu'on a évoqué, les conséquences de cette gestion de l'énergie telle qu'on l'a aujourd'hui, qu'en fait on n'a pas d'autre solution, et qu'on sait qu'on va droit vers un mur, même si on ne sait pas trop ce qu'est ce mur-là, c'est vertigineux, c'est effrayant.
Bah écoute, je suis content que tu sois un peu effrayé, ouais. Bon. Parce que c'est effrayant, oui. On parle de choses qui sont centrales, et pour lesquelles on n'a pas de réponse. Et même j'ajouterais, et ça, je sais pas si on a le temps, mais la pile à combustible, il y a même des solutions sur lesquelles on travaille depuis un certain temps, très longtemps.
Oui, parce que faut dire que c'est pas parce qu'il n'y a pas assez de moyens qu'on n'a pas assez de solutions. C'est parce que les moyens, ils sont, et puis à l'échelle planétaire,
on peut toujours trouver qu'il n'y a pas assez de moyens.
Voilà, ça,
mais c'est pas ça qui est bloquant.
Mais c'est pas ça qui est bloquant, ça faut bien l'entendre quand même.
C'est, on est bloqué par la physique et la chimie, par les ordres de grandeur qui sont monstrueux. Mais par exemple, la pile à combustible, ça fait un certain temps qu'on bosse dessus, et un certain temps, ça se compte en dizaines d'années, et ça se compte en quantité d'argent investi qui est importante. Pour autant, ça marche toujours pas.
Donc,
toujours mal.
Tout ça est très effrayant, mais restez avec nous, on a encore plein de questions à se poser, on a plein de discussions à avoir et de choses à vous dire encore. Donc, merci de nous suivre sur Comment ça va le monde sur l'énergie, et on se retrouve le mois prochain pour... un nouvel épisode. Merci Valentin, à bientôt.
Merci Antoine.
Stockage électrochimique de l'énergie, que l'on connaît tous, est essentiellement centré sur des technologies de petites batteries, type lithium-ion, pour du stockage nomade. Mais les enjeux de demain, pour permettre un développement supportable pour l'environnement et pour l'économie, nécessitent de développer de grosses technologies. Les batteries dont on parle, ce sont des batteries de grande taille. Pour un véhicule électrique, on a besoin de 40 kWh, ce qui correspond à peu près 10 000 batteries de portable. Et donc, les enjeux qui sont autour de ce système de très forte taille ne sont pas les mêmes que ceux pour des petites applications.